Et vous écoutez France Culture. La mort des uns et le pain des autres. Caroline de Mulder. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit donc ce soir la romancière Caroline de Mulder pour Calcaire, roman paru chez Actes Sud, récit frénétique, géologique et apocalyptique ayant la Flandre pour fond et même très fond, voire outre fond. Évocation seconde partie d'émission d'Obsession, une anthologie par aux éditions Le Dilettante, des chroniques prononcées semaine après semaine, au fil des années à cette même antenne, par le maître Christophe Beer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Alors j'avais déjà eu le plaisir et la joie de vanter les immenses qualités littéraires d'un roman, vous et moi, il y a de cela presque un mois et demi. Eh bien, les choses sont tellement intenses que son auteur est avec nous ce soir dans Mauvais Genre et le passage de l'un à l'autre se fait sans aucun problème. Bonsoir Caroline de Mulder.
Bonsoir.
Alors vous êtes l'auteur donc de Calcaire, on ne le dira jamais assez, qui paraît chez Actes Sud aux éditions Actes Noirs, et vous êtes notre invité pour ce livre. Ça n'est pas votre premier roman, il y en a eu d'autres avant, dont on dira
trois,
voilà, dont on dira quelques mots. Vous êtes en compagnie de Christophe Beer, le deuxième invité de la soirée. Christophe Beer, qui n'a pas été invité dans cette émission depuis à peu près 15 ans.
Oui, depuis 2001.
Voilà, il y a eu un bond dans le temps. En effet, il faut quand même saluer les choses, parce que dire les choses, puisque Mauvais Genre a 20 ans cette année, aura 20 ans très précisément fin octobre, et à cette occasion, deux ouvrages paraîtront. Le premier, l'auteur en est là avec nous ce soir, c'est vous Christophe Beer, donc, puisque vous avez concocté une anthologie qui rassemble la quintessence de vos chroniques dans cette émission depuis
2003, depuis le décès de Pierral exactement.
Voilà, depuis que Pierral nous a offert Christophe Beer en partant au ciel. Pierral, qu'on salue d'ailleurs, avec qui nous filme les grandes heures du Centre Pompidou dans des soirées Mauvais Genre, restées fameuses en 2002, l'année du centenaire par ailleurs de Alexandre Dumas. Sixtine Audebert est là, bonsoir.
Bonsoir, présente et ravie.
Présente et ravie, nous également. Quelques nouvelles du front des études de genre.
Ravie d'être en compagnie d'une universitaire, un peu la Dominique Manotti de la Belgique. Une personne sérieuse, disons, qui a fait sa thèse sur le Comte de Lille et qui écrit du noir avec amour. Disons que vous incarnez un peu, à votre façon, les changements de la culture contemporaine. D'une certaine manière, on pourrait résumer, l'effondrement programmé depuis 68, une culture de la distinction. Et pour vous, le genre n'est pas une simple coquetterie, ou peut-être n'est-ce qu'une simple coquetterie, un péché mignon, une gourmandise coupable. Et vous investissez donc cet espace en mobilisant une véritable force poétique et un travail de la langue dont nous allons
largement parler.
Et je saisis l'occasion pour parler deux minutes de ce qui se passe aujourd'hui, donc massivement dans le milieu universitaire, le sombre milieu universitaire dont je suis la première intéressée.
Sombre incarnation.
Il est de plus en plus légitime, disons, pour les chercheurs d'exposer leur intérêt au grand jour pour des éléments de la culture populaire et de fournir des études sérieuses sur des productions qui jusqu'alors n'avaient pas lieu, disons, de siéger sur les bancs de l'université. On pourra noter d'abord une genèse autour de la revue Belphégor, revue en ligne qui est donc la bien nommée et dont je ne saurais que trop conseiller la lecture. Et on pense également aux éditions du Murmure, qui ont été fondées par Antonio Dominguez Leva, illustre universitaire canadien, et qui propose des titres tels qu'Éloge de la nanarophilie, Striptease, Pensionnat sadique et autres schtroumpferies. Dont vous avez parlé,
dont on a parlé. Absolument.
Et même aujourd'hui, les sacro-saints locaux de l'ENS Ulm, où Luce Roudier, rocks the box, comme on pourrait dire, qui publie d'abord en auto-édition les romans de Michel Zévaco, et qui a monté un séminaire tout indiqué pour nous, Mauvais goût, mauvais genre.
Voilà, c'est chez nous.
Que je vous invite à suivre et qui est disponible sur YouTube en captation, où elle reçoit Dominique Khalifa, le grand spécialiste des bas-fonds, Irène Langlais, la spécialiste de la SF, mais aussi des jeunes talents producteurs comme elle-même, ou Buntavi Suvillé, qui travaille sur la réception de Dragon Ball Z en France.
Ah bah écoutez.
Et voilà, donc 20 ans de mauvais genre, 20 ans de mauvais genre au sein de France Culture, cette arche de la culture aussi.
Et Dans l'arche de l'arche de la culture qui est France Culture, on représente les animaux,
voilà.
les animaux nocturnes. On reviendra un petit peu sur vos travaux universitaires dans quelques minutes, Caroline de Mulder, avant de parler de calcaire, puisqu'il nous faut, comme tous les samedis, eh bien ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais gens et la lettre, ma chère Céline, ce soir, ce sera la lettre.
Eh bien, ce sera la lettre B comme B. Bergamini, Élise Bergamini.
Oui, en étant très tôt consciente de notre propre finitude, je suis quelqu'un qui aime la vie, en fait, plus que tout. Et j'ai tendance à sublimer peut-être les choses, à les rendre un peu poétiques ou oniriques. Effectivement, il y a l'érotisme. J'essaie de jongler entre le merveilleux et en même temps... Il y a le terrifiant, il y a quelque chose qui rôde au-dessus de nous, il y a cette ombre qui nous attend au tournant, c'est la mort. Et donc, peut-être rendre le plus beau possible, même ce qui est l'imperfection, et bien, donc, ce qui est vivant, le magnifier avant que ça tombe dans l'abîme, enfin, avant que ça disparaisse.
Les broderies et les dessins d'Élise Bergamini sont aussi délicats que précieux. Elles représentent toujours une femme, et plus précisément un corps féminin morcelé. Ici un sein, là un bras, ailleurs une main, autant de parties du corps qu'Élise Bergamini met en valeur dans l'espace du dessin, car ces éléments sont disposés seuls, laissant place au vide du papier ou du tissu, créant ainsi un sentiment d'absence évanescente. La solitude y est relative car ces petits bouts de corps entament un subtil dialogue avec un détail. Cela peut être une bouche rehaussée d'un rouge à lait framboise, des pieds aux ongles vernis posés sur un parterre d'herbe verte, un visage butiné par des abeilles, des jambes envahies de fourmis. Et ce sont donc des œuvres aussi oniriques que surréalistes où le corps reste l'inspiration première d'Élise Bergamini dans sa beauté comme dans ses petites bizarreries.
Ça peut être une dépigmentation des cheveux, des petits morceaux de chair qui vont orner la paupière, donc des petits détails comme ça qui peuvent être des imperfections que j'ai envie tout de suite de transformer en parure. Enfin, l'imperfection devient petit à petit parure, que ce soit en broderie ou en dessin. Ça va devenir un objet de décoration, alors que chez la plupart des gens, ce n'est pas perçu comme ça. Donc tout ça me fascine. C'est le corps qui parle, le corps qu'on ne contrôle pas non plus. J'ai toujours été aussi pas fascinée, mais par la pousse du poil, des cheveux, des ongles, tout ce qu'on ne contrôle pas. Pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration parce que c'est un terrain foisonnant. Il s'exprime tout le temps, en fait. Et ce que je fais dans mon travail, c'est ça, c'est que je relève, je note et révèle du coup ce qu'il raconte. Donc, mon propre corps ou ce qui peut m'intéresser chez l'autre. Donc, ce qui m'emmène vers des jeux. Souvent, il y a un jeu qui se met en place avec le temps. Alors, des fois, il s'arrête, des fois, il s'accroît. Les productions cycliques, comme les cheveux, les poils, les cils, les ongles, vont pousser de trop. Ils vont devenir aussi peut-être une parure. J'ai fait un dessin aussi qui s'appelle « Comme un collier ». Donc là, c'est inspiré d'une phrase dans le Cantique des Cantiques, « Contour des cuisses comme un collier ». Et donc là, j'ai pensé au pubis qui pousse tellement qu'il orne les jambes comme des lianes, en fait.
Les dessins et l'actualité d'Élise Bergamini sont à retrouver sur son site internet www.elise-bergamini.com. Sachez qu'elle expose en ce moment ses dessins et ses broderies à Metz, à la Galerie des Jours de Lune, c'est au 5 rue de l'Arsenal, à voir jusqu'au 8 avril. Et par ailleurs, l'éditrice d'Élise Bergamini est Marie-Laure Dagua. Donc on peut retrouver son travail sur le site de Littérature Mineure avec un coffret Élise Bergamini où se cachent puis se dévoilent de nombreux trésors, donc www.littératuremineure.bitcartel.com.
Caroline de Mulder, vous êtes une familière des travaux des photographes et ce type de photographie.
De dessin.
De dessin.
Eh bien, moi, les dessins que je connais le mieux sont peut-être les dessins fin de siècle, puisque c'est une époque qui m'intéresse beaucoup et que j'ai étudié, notamment Félicien Rops, qui est originaire de la ville où j'enseigne, à Namur.
Un dessinateur sacrilège, érotomane, sacrilège et pornographe.
Exactement, oui. On a un musée, Félicien Rops, que je vous recommande chaudement si vous êtes de passage.
Très bien, bah écoutez, un jour on ira au musée Félicien Rops et vous nous le ferez visiter. Mauvais genre, il sera tout à fait à sa place. Nous recevrons donc ce soir Caroline de Mulder pour son roman Calcaire, paru chez Actes Sud. Anyway, you want a, un extrait dans The Untold Story of the Belgian Popcorn Scene. Caroline de Mulder, vous êtes familière de ce type de musique d'habitude? Quand vous écoutez de la musique en travaillant, en écrivant ou sans, c'est quoi? Vous
êtes, non, là c'est une découverte, le morceau qui vient de passer.
Avec Laurent Polleret, c'est souvent des découvertes. Votre premier roman, Ego Tango, qui était paru aux éditions Champvallon, portait sur le tango. C'est aussi pour vous une voie d'accès à l'écriture, la danse, la musique cette inspiration comme ça, chorégraphique.
Ça l'a été à une époque. En fait, quand j'ai commencé à danser le tango, j'ai tout de suite vu le potentiel esthétique et fictionnel que cette danse recelait, oui.
Et votre premier roman, qui est là, je n'ai pas lu, portait sur ces dimensions-là,
sur la dimension esthétique du tango, oui. Mais c'est surtout aussi un roman sur l'addiction. Il se trouve addiction au tango.
Des gens qui ne peuvent pas se passer de danser et de danser le tango.
Exactement. C'est un tout petit microcosme qui existe d'ailleurs réellement. Donc je n'ai pas inventé grand-chose dans ce roman, qui raconte aussi l'histoire de la disparition d'une danseuse. Et donc, il y a une ambiance de paranoïa qui s'installe autour de ça.
Alors, Caroline de Mulder, vous êtes née à Gand, un lieu béni par la figure de Jean Rey. Oui. Et l'auteur de Malpertuis et autres contes atroces. Vous êtes professeur à l'université de Namur et vous avez été élevé dans la double culture wallonne et flamande. Comment s'est passé un petit peu votre approche de l'écriture et des langues, et avec quelle lecture?
Alors mes parents sont flamands et j'ai appris à parler en néerlandais et j'ai appris à écrire en français. Et dès que j'ai appris à écrire, j'ai commencé à lire et c'était à la base, j'ai lu un peu n'importe quoi. Et c'est finalement très tard que j'ai appris que mes goûts se sont développés d'une manière un peu plus cohérente quand j'ai commencé à étudier à Namur en fait.
Et quelles ont été vos lectures marquantes quand on arrive à Calcaire et aux autres livres? Quels ont été un peu les moments forts de vos auteurs? Quels sont vos auteurs, vos grands livres?
Alors, il y en a énormément,
ouais.
Mais peut-être que je vais... Enfin, un des moments qui a été fort pour moi, ça a été la découverte de la veine gothique fin du 18e, début du 19e, avec des auteurs comme Le Moine, Lewis, Radcliffe, Melmoth, le Juif Ferrand de Mathurin, Wilkie Collins...
Donc une inspiration noire et gothique, et vous étiez plutôt porté sur la figure du bourreau tortionnaire, de l'inquisiteur, du sombre inquisiteur, ou justement sur la figure de l'héroïne.
De la victime innocente, bien sûr.
De la victime innocente, bien évidemment. Mais là, ce sont des textes qui relèvent, on peut le dire, de l'histoire littéraire et assez savante même. À part ça, sur ce qui est de la fiction contemporaine, je ne sais pas, Clive Barker, Stephen King, est-ce que vos lectures vous ont porté vers ce type d'auteur ?
Là, depuis quelques années, je lis beaucoup de romans noirs américains. C'est vraiment une découverte qui me marque beaucoup, et je suis en train de creuser dans ce rayon-là.
Et vos études vous ont porté donc vers le 19e siècle. Vous avez fait une thèse sur Le Comte de Lisle, qui va plaire beaucoup à Christophe Beer, qui est un grand fan des Parnassiens, d'Hérédia,
oui.
et autres poètes de l'art pour l'art. Et puis là, vous travaillez plutôt vers Léon Blois. Donc vous avez ancré dans le 19e siècle. C'est pour vous un siècle qui est peut-être qui correspond le plus à ce que vous demandez à la littérature, à la langue, au rapport entre l'homme et l'écriture?
J'aime autant le 20e siècle que le 19e siècle, mais c'est vrai que j'ai commencé comme 19e-iste et que j'ai tendance à graviter autour de ce qui s'y est fait. Mais des choses très différentes, comme vous dites, j'ai bien aimé les petits romantiques.
Un petit romantique, Forneret,
Petrus Borel. Puis, évidemment, je suis passée par tous les classiques, mais ensuite, entre les Parnassiens et la fin de siècle, avec ces écorchés vifs, mystiques, maltraitants, il y a quand même beaucoup de différences. Donc je pense qu'il n'y a pas un 19e siècle, il y a beaucoup de 19e siècle, et un certain nombre de ceux-là m'intéressent.
Alors on parlait de Gant, on parlait de Jean Rey. Est-ce que l'école belge du fantastique vous a marqué? Puisque quand on lit Calcaire, on ne peut pas ne pas penser effectivement à Jean Rey, à Thomas Owen, à Marianne Andreau, et puis voir se dresser dans un coin l'ombre spectrale de Michel de Gelderode, dont les Fastes d'enfer et autres Obscignor témoignent un peu justement d'un univers qui pourrait se rapprocher des vôtres, les contes sortilèges également.
Oui, j'en ai lu vraiment beaucoup de ces nouvelles et de ces auteurs, et je pense effectivement que ça a peut-être quelque part marqué ce que j'ai écrit à certains endroits. À certains moments, j'ai l'impression qu'effectivement c'est une prose qui décolle un peu vers le fantastique. En tout cas, c'est ce qu'on m'a fait remarquer.
Elle décolle vers le fantastique, mais elle s'enracine quand même dans une matière lourde, dans une langue charnelle, colorée, dans une sorte de peinture au couteau. Il y a quand même chez vous aussi ça, cette présence d'une écriture extrêmement matérielle, je dirais.
Oui, matérielle dans tous les sens du terme, matérielle au sens où il y a vraiment... j'essaye de sculpter la langue, et puis c'est vrai que c'est ancré dans des réalités sociales existantes et très noires.
Et comment les deux langues ont joué dans votre parcours d'écrivain? Est-ce que elles s'infusent l'une l'autre, ou est-ce qu'au contraire c'est deux mondes séparés?
Je pense que quand on est élevé avec deux langues, on est tout de suite plongé dans deux univers différents qu'on compare. On a un rapport à la langue qui est différent. Alors je ne sais pas si ça déteint immédiatement sur ce que j'écris, mais je pense qu'effectivement ça a très profondément marqué ma conscience de la langue. Le fait que les choses peuvent se dire de différentes manières à la fois, et dès qu'on voit quelque chose, on essaye de les formuler de différentes manières, oui.
Est-ce que vous pensez dans une langue et vous écrivez dans une autre, ou est-ce qu'au contraire c'est toujours le phénomène conjoint, les deux sont là en permanence?
Tout s'en mêle dans ma tête.
Sixtine Audebert.
Oui, moi je voulais savoir, avec justement cette approche de la littérature qui est finalement très attachée à la figure de l'auteur comme artiste, justement ciseleur de la langue, comment est-ce que vous négociez avec le fait d'écrire dans le genre, justement?
Je ne sais pas si j'écris réellement dans le genre. J'écris ce texte qui effectivement est inspiré un peu de certains topos gothiques, de certains topos du roman noir. Est-ce que pour autant c'est du roman de genre? Je ne sais pas.
Moi, j'avais vu dans la figure du lieutenant une espèce de détective hard-boiled. Et donc ça m'avait.
Oui, il a un côté. Il est à la fois dans une quête amoureuse puisqu'il essaye de chercher cette femme qu'il a perdue. Il va essayer de la chercher au fond des carrières de calcaire. Il y a une quête amoureuse et aussi une enquête. Donc effectivement, c'est une figure qu'on retrouve dans les polars.
What do you think is the most unique thing that Van Halen brings to rock and roll? What do you think is the most unique thing that Van Halen brings to rock and roll?
Alors avant Calcaire, qui nous occupera ce soir, Caroline de Mulder, vous avez publié trois romans. Le premier, on en a parlé fugacement, sur Ego Tango, c'est sur la folie de danser, la folie du tango. Le second, c'est Nous les bêtes traquées. Alors là, ça, on est déjà aussi un peu dans Calcaire. De quoi s'agit-il, Nous les bêtes traquées?
Alors c'est l'histoire d'un homme qui a vu des choses compromettantes et qui va se retrouver confronté au choix soit de les révéler au risque de sa vie, soit de se taire en trahissant ses idées. Et tout ça dans une ambiance de paranoïa, puisqu'évidemment, il est sous surveillance. Et voilà, c'est l'histoire d'un dilemme.
Et là aussi, vous prenez en écharpe la thématique du roman d'espionnage. Donc il y a toujours un peu à l'arrière-plan de votre écriture ce rapport à la littérature de genre, ce rapport à une sorte de fiction codée que vous amusez à subvertir.
À titre personnel, je pense que beaucoup de bons romans, même publié en littérature générale, comporte un élément noir, et parfois même un élément polar.
Et cet élément noir, vous allez le chercher où? Vous allez le chercher dans l'histoire anecdotique, enfin je dirais l'histoire courante, l'histoire d'aujourd'hui, dans vos rêves, enfin dans votre propre matière noire à vous. Où est-ce qu'il, d'où vient-il? Parce qu'avec Calcaire, on est accablé par une énorme vague de noirceur, mais là, déjà dans ses précédents romans, d'où venait cette noirceur, Caroline de Mulder?
J'imagine que ça vient d'une forme d'inquiétude intérieure.
Qui est la vôtre.
Sans doute.
Voilà. Alors l'inquiétude, on la retrouve également dans Bye Bye Elvis. Là, c'est la figure donc du Presley, la figure de Presley vieillissant, et puis d'un autre personnage. Bon, on ne va pas en révéler l'affaire. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire, là, puisque vous n'êtes pas, je ne pense pas, fasciné par la mythologie du rock'n'roll et par d'autres grandes figures. Il y a des romanciers qui ont fait leur carrière, mais enfin qui ont énormément fait dans ce style. Je pense à Nick Toschis, par exemple. Vous, pourquoi avoir choisi la figure d'Elvis?
Parce que je trouvais le personnage émouvant et surtout qu'il était à la croisée de deux idées que j'avais envie d'illustrer. La première, c'est que tous les ans, il y a un nombre considérable de gens qui disparaissent sans être enlevés ni tués, mais qui disparaissent parce qu'ils ont envie de radicalement changer de vie. Et il y a d'ailleurs un droit à la disparition, puisque on ne peut pas quand la police les retrouve, s'ils ont décidé de disparaître, on peut pas les ennuyer ou venir les chercher. L'autre idée, c'était l'idée que la gloire broie beaucoup de gens. Quand on n'a pas une très, très grande force intérieure, je pense qu'elle broie à peu près tout le monde. Et c'est ça aussi que je voulais illustrer. Au milieu de ces deux idées, à l'intersection, il y a Elvis. Parce que, comme chacun sait, Elvis n'est pas mort, et peut-être n'est-il pas mort et enterré, mais justement, est-il caché quelque part? A-t-il réussi à fuir pour échapper à sa gloire?
À fondre dans le décor, à s'échapper, on peut dire, à se mettre entre parenthèses.
Exactement.
Et vous êtes tenté par d'autres figures comme ça? Il y a d'autres figures qui vous intéressent parmi ces mythes, que ce soit les figures cinématographiques, littéraires ou picturales? Est-ce que dans votre panthéon personnel, il y a d'autres figures qu'Elvis? Enfin, d'autres figures du type de celle d'Elvis Presley?
Je n'ai pas réellement réfléchi. Je suis pas particulièrement une fan des grandes figures de fan, ouais. Si vous voulez. En plus, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Marilyn, tout ça, non, ça ne. Ouais. Je vais chercher ailleurs mes prochaines fictions, je pense.
Alors maintenant, on va s'aventurer dans les profondeurs du sous-sol belge avec vous, Caroline Mulder, avec ce calcaire. Et le mieux, c'est peut-être de vous écouter en lire un extrait, donc un extrait de Calcaire, un roman qui est au cœur de notre mauvais genre de ce soir.
Rouge comme le sang, la fille a la moitié gauche du visage flambé, car c'était une gifle avec la force d'un poing. Elle pose sa main sur sa joue. Frank Doornen est fou. Il a le corps piqué, les gestes dilatés, les bras qui percutent, qui pleuvent de ci de là. Il balance d'un revers une lampe de chevet. Elle éclate en sourdine sur le tapis plein. Il cogne le mur à se péter les jointures, à s'exploser chacune des phalanges. Il déteste cet endroit, déteste les putes. Par-dessus tout, déteste Lise d'avoir vécu ici. La déteste. À genoux. Tombé à genoux, il respire fort, appuie les index, les majeurs sur ses paupières. Veut se reprendre. S'est monté d'un coup, comme toujours. À écouter cette femme. À voir cette lumière bleue sur le fauteuil blanc, à voir ce lit nickel et cette saloperie de lumière rouge qui tombe dessus pour que la peau ait l'air belle, que la mocheté se fonde, que l'œil se trompe. Et derrière, par une porte entrouverte, la salle de bain vieillotte, carrelée de blanc pas cher et éclairée d'un néon. Le dos de sa main saigne aux articulations, il ne sent rien. Il reste comme ça, scotché et pas d'un pouce.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Un extrait de Calcaire lu par son auteur Caroline de Mulder. Alors c'est un livre, je le répète, j'utilise une métaphore que vous utilisez vous-même dans votre roman Caroline de Mulder. C'est un livre fou comme le cheval du Christ, qui comme on le sait est un âne, bien sûr.
Exactement.
Un livre fou comme le cheval du Christ, dont les titres des parties sont assez éloquents par eux-mêmes. Ordure, vie rampante, déluge, calcaire pur. Et ce livre... Le premier abord raconte effectivement une enquête qui est une enquête policière que mène Frank Doornen, ancien militaire devenu policier suite à la disparition de sa maîtresse Lise, qui a disparu dans l'effondrement subi d'une villa qui s'est littéralement engouffrée dans le sol.
L'ancien militaire qui était spécialisé dans la chute libre.
Un chasseur ardennais, un ancien parachutiste.
Oui. En fait, c'est son histoire et l'histoire d'une chute, mais avec. Il se relève, en fait. Enfin, tous ces personnages cherchent aussi à se relever.
À sortir des décombres.
Je ne connais pas vos autres romans, mais j'ai l'impression que vous êtes fasciné par le thème de la disparition, puisque c'était le cas du premier, puis d'Elvis, le droit à la disparition aussi. C'est la figure centrale un point central de Calcaire, ce qui est la disparition de Lise van der Velde, cette personne que cherche Frank Doornen, cet ancien militaire qui a été victime d'un AVC. Donc c'est d'où cette violence que vous nous avez fait entendre dans le passage que vous venez de lire.
Caroline de Mulder.
Oui, alors tous mes personnages sont en fait très violents et ils sont tous, je dirais, hantés par leur animalité. C'est quelque chose que j'ai été obligée de remarquer quand j'ai fini la première mouture de ce texte, c'était qu'il y avait des animaux un peu partout, que ce soit dans l'animalité de chacun de mes personnages ou des animaux matériels d'ailleurs qui se retrouvent ensuite dans l'espèce de zoo charnier que Mank entretient au fond des carrières. Donc oui, tous mes personnages sont animaux et je dirais... Ils ont tous l'esprit embrumé, que ça soit par l'alcool, que ça soit par la drogue, que ça soit par un AVC.
Oui, par la poésie aussi.
Par la poésie ou ou la démence, hein, dans le cas de Louise Orlandini, effectivement. Et quant au thème de la disparition, c'est, je pense, oui, une sorte d'obsession chez moi, même si ce sont des disparitions très, très différentes. Hein, dans le premier roman, elle apparaît en filigrane. D'ailleurs, ça n'est pas une vraie disparition. Dans le deuxième cas, dans le cas d'Elvis, c'est une disparition volontaire de quelqu'un qui fuit la gloire pour ne pas être broyé par elle. Et puis ici, c'est une disparition dans un...
Sous terre, oui.
Sous terre.
Comme oui. Alors justement, donc, on a parlé de Frank Dorlon, on a parlé de Lise. Il y a Orlandini, qui est une sorte de promoteur véreux, qui règne sur
qui existe la... vraiment, je l'ai calqué sur une personne réelle.
On le salue, il s'en connaîtra. donc, qui est un personnage, comme il y en a justement, on est du côté de Maastricht, dans tout ce qu'on appelle, dans les régions européennes, des gens qui...
Trafiquent de déchets.
Voilà, qui sont à la fois des trafiquants, qui font à la fois fonctionner l'économie, mais sur un mode un peu particulier. Le mot est faible, il y a son épouse, alors, qui est un personnage central du roman. Puis alors à côté, un monde marginaux d'anciens nationalistes flamands reconvertis dans l'écologie millénariste, des ferrailleurs informatiques, des cyber-ferrailleurs comme Chip. Donc il y a véritablement un monde extraordinaire de personnages, mais tous ces gens-là sont incarnés et pris dans une structure qui n'est pas indifférente, puisque la structure-là, elle est particulière. Il y a 88 blocs de texte qui forment ce roman, Caroline de Mulder.
Qui désigne le coupable.
Voilà, ça on n'en dira pas beaucoup plus. Donc 88 blocs de texte. Ensuite, il y a l'histoire qu'on peut lire horizontalement, c'est-à-dire celle de Frank Dorlon, d'un point à l'autre de sa quête et de son enquête. Et puis, je dirais, il y a une espèce de stratification narrative qui fait qu'il y a le roman de la surface, c'est-à-dire que se passe-t-il à la surface du sol, entre tous ces gens qui vivent l'histoire du XXe siècle avec les faits divers, les drames et tout et tout. Il y a un sous-sol, alors c'est justement là où un deuxième temps de l'histoire a lieu, puisque c'est tout ce que l'on cache, son utopie personnelle, de la noirceur de ses trafics, donc c'est un deuxième niveau, c'est le sous-sol, le sol, le sous-sol, et puis il y a la grande profondeur, parce que vous nous sortez du temps, on atteint un moment, on se décroche de la chronologie, puisqu'avec vous, il y a des blocs de texte qui parlent, eh bien, des fossiles, qui parlent de la pierre elle-même, qui parlent d'une sorte de durée interminable, qui est la durée de la matière même. Donc, comment avez-vous structuré ce roman? Cette structure, elle est venue comment? Elle est venue en fonction de l'histoire ou au fil de l'histoire?
Alors, j'avais envie justement que ces différents niveaux dialoguent et se fassent écho. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cette structure. Comme vous le dites, c'est 4 fois 22 blocs. Avec effectivement, j'ai voulu créer des ponts entre ces différents niveaux qui s'éclairent à un niveau, je dirais, presque inconscient. On n'est pas dans le...
Parce que vous êtes fasciné par la disparition, mais également par ce qu'on pourrait appeler la capillarité ou la profondeur, parce qu'il est enfoui, parce qu'il cherche à ressurgir. Je cite un extrait, alors non pas de Calcaire, mais de Nous, les bêtes traquées, un de vos précédents romans, qu'on peut lire maintenant en Babel. C'était la cave, la terre, les morts qui remontaient, ils finissent toujours par remonter à la surface. Donc là, c'est un petit peu ce qui semble vous hanter, c'est-à-dire ce phénomène d'effondrement, de disparition par le fond et de remontée nécessaire. Cette espèce de dialectique permanente entre ce qui est caché, ce qui est tué, enfin ce qu'on croit avoir tué, et puis ce qui finit par revenir, c'est-à-dire la remontée à la surface. Qu'elle soit géologique ou mentale ou sociologique presque.
Oui, c'est vrai, il y a presque un tic d'écriture autour de cette double thématique. Il y a aussi une thématique qui est très importante dans Calcaire, ce sont les déchets enfouis, donc par Orlandini. Et ces déchets, c'est une réalité sociale, hein, parce qu'effectivement, la réalité sociale des déchets est très noire et très préoccupante. Mais c'est aussi une image qui reflète les secrets sales de mes personnages. Tous mes personnages, presque, ont un secret, dissimulent quelque chose, ont quelque chose à cacher.
C'est cette thématique donc de l'enfouissement et du secret. Sixtine Aubert.
Oui, et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, disons au moins un commentaire, et dans quelle mesure est-il un travail de la réalité actuelle politique flamande, sur un commentaire sur un inconscient national, quelque chose de
latent. Oui, alors c'est un roman qui est qui est ancrée évidemment en Flandre. Et ce que je raconte, ce sont certaines réalités très, très, très flamandes, justement.
Vous L'extrême... avez travaillé de la documentation?
Oui, bien sûr, oui. Évidemment, je me suis beaucoup renseignée, notamment sur les lieux où ils se réunissent. Et il faut savoir que l'extrême droite flamande, qui était très puissante il y a quelques dizaines d'années, il y a même encore 10 ans, est devenue très faible, très marginale, parce qu'en fait, c'est la droite politiquement correcte qui a repris ces idées-là et ne reste plus finalement qu'une poignée de nostalgiques extrémistes qui ont leur café, leurs collections inquiétantes, leur dada. Le café dont je parle dans le livre, hein, qui s'appelle De B, c'était d'ailleurs, a réellement existé. Mais il était à Anvers, il n'était pas à Hasselt, il était à Anvers, et il a dû fermer... faute de clients, en réalité.
Donc vous confrontez tous ces personnages que l'on peut reconnaître, la preuve en est, vous en avez parlé, on les confronte à ce qui est leur matière noire à eux, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont caché, tout ce qu'ils ont enfoui, mais c'est de l'ordre du péché, effectivement. On cache des détritus, on cache des déchets, mais on peut aussi cacher ses rêves et son idéal, puisqu'un des personnages enfouit, je dirais, autre chose que sa honte, il enfouit ses rêves aussi.
Oui, effectivement, cela dit, c'est un personnage qui est tout de même très, très ambivalent et très inquiétant lui aussi, hein. Donc, qu'est-ce que c'est est-ce qu'on peut dire que ce sont des rêves au bon sens du terme? Je ne pense pas.
La pierre est aveugle. Dans le creux, une colonie de crevettes blancs translucides. Au fil des siècles, elles ont fini par perdre leurs yeux de plus en plus petits, diminués, disparus. La lumière les tuerait en quelques heures. Ici, il n'y a pas de lumière, pas d'ombre. Le froid, l'humidité, c'est tout. Le silence, des mouvements imperceptibles et espacés, quelques-uns par heure et encore, de pattes et d'antennes décolorées dans le cœur de la pierre. Elles sont carnivores, cherchent des proies vivantes ou mortes. À défaut, elles mangent des débris végétaux. À défaut, de l'argile. Elles peuvent vivre 200 jours sans se nourrir. Tout en elles est lent et tout est froid. Elles sont si près de la mort qu'un rien très rare leur suffit. En haut de la brèche, un minuscule escargot sécrète un suc digestif sur la carapace d'une crevette morte, transparente comme un ongle. Plus haut encore, le minuscule frémissement aérien des ailes d'un papillon de nuit.
Extrait de Calcaire de notre invitée Caroline de Mulder, qui nous est élue par Christophe Bir. Alors là, c'est l'autre pôle, je dirais, du roman. Il y a le pôle psychologique, historique, et puis là, on est dans la matière aveugle. On est dans le temps immémorial,
dans les abysses,
dans les fossiles, voilà.
Ou le trou dans lequel tombe sans cesse le personnage principal. Quand il a ses accès de violence, vous écrivez qu'il est dans
des trous. La chute, toujours.
Voilà, voilà. Il tombe dans des trous.
Alors les passages géologiques, c'est en réalité à la fois le présent et le passé du calcaire. C'est ce qui reste de vivant dans quelque chose de mort. Si on veut, finalement, c'est dans ces courts passages, les insectes sont un peu les morts vivants de mon histoire.
Je me demande si ça donne une clé aussi sur l'écriture du livre. Je suis notamment, on a parlé des blocs de texte, et puis à l'intérieur même des blocs, il y a le travail sur l'écriture, où parfois la phrase ne se résume plus qu'à un seul mot, un peu comme ces bactéries qui rongent les carcasses de cachalots, dont vous parlez dans un de vos blocs, et ensuite il ne reste plus que l'essentiel, où il y a quelque chose qui ne résiste pas à la pourriture, et qui est là en permanence. Moi, je trouve que l'écriture nous donne l'idée d'un roman sédimenté également. Votre écriture elle-même subit toute cette corrosion. Et après, dans les deux passages que nous avons lus, il y a ce qui me frappe le plus, ces phrases qui ne sont constituées que d'un mot, un verbe.
Caroline de Mulder.
Oui, pourquoi dire en 10 mots ce qu'on peut dire en un seul? Le mot tout seul est beaucoup plus puissant que les 10 mots. C'est comparer un cri à une longue mélopée, par exemple. Le mot a puissance de cri, le mot seul, le mot isolé, la phrase sèche, la phrase de quelques mots ont la puissance du cri.
Oui, on dit souvent que certains bons polars vont à l'os, mais c'est très souvent une image. Là, je pense que vous arrivez vraiment à la réalité de cette image-là. Là, on ne peut pas dire que c'est une figure de style. On est vraiment de...
On touche le nerf.
Oui, tout à fait.
J'espère que j'ai gardé un peu de bon gras quand même.
Oui, bien sûr, oui. Alors, mais dans ces strates aussi, il y a ce personnage de Madame Orlandini, enfin, tous les personnages sont fascinants de toute façon dans Calcaire, mais il y a aussi cette mémoire d'ordinateur. Le personnage du ferrailleur informatique, voilà, le cyberferrailleur qui arrive à percer les mémoires des vieux ordinateurs, tout ça. Il y a aussi donc cette mémoire de texte qui ressurgit également, un peu comme différentes strates minéralogiques.
De la mémoire numérique, oui.
Oui, effectivement. Et puis, Chip, puisque c'est lui le ferrailleur, découvre de nouveau des secrets, effectivement, fait remonter à la surface.
Oui, il en découvre sans cesse, en fait. On pense avoir découvert un secret, il y en a encore un autre derrière.
Exactement. Et donc, il participe lui aussi, finalement, à cette enquête aux côtés de Frank Doornan.
Ce qui est remarquable, et je vais revenir sur ce qu'a dit Christophe, c'est vrai que les différentes langues des différents personnages sont des incarnations à chaque fois. Pour le personnage de Frank Doornan, vous utilisez beaucoup le discours indirect libre, vous faites des propos rapportés, on a l'impression qu'il grommelle sans arrêt. Et pareil pour Chip. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un écart incroyable entre la langue parler et la langue écrite de Chip. Quand il écrit à la fin sur son ordinateur, on voit que c'est un homme qui prend un plaisir fou à écrire et à former
des
belles
phrases aussi. Hein, c'est un personnage bavard.
Alors c'est dommage qu'on n'ait pas entendu effectivement des extraits où vous ajoutez du flamand en fin de phrase. J'aimerais bien.
Les expressions flamandes, finalement, je pense que les images qui sont utilisées dans une langue sont souvent plus révélatrices d'un peuple, plus révélatrices d'une culture que les paysages. On dit par exemple en France, on va dire entre la poire et le fromage, ce qui est raffiné, élégant, tandis qu'en flamand, on dira tussen de soep en de pataten, entre la soupe et les patates, ce qui tout de suite ancre les choses beaucoup plus dans la terre.
Mais d'ailleurs, effectivement, il y a une foule de proverbes, d'expressions flamandes qui sont rapportées et sur le mode bilingue. Ça aussi, c'est une volonté de faire figurer les deux langues l'une avec l'autre et de montrer l'écart qu'il y a du passage de l'une à l'autre.
Oui, c'est d'ailleurs presque tout est presque dans la bouche de Chip et de quelques flamands, parce que je pense effectivement que c'est très révélateur de l'âme de la Flandre.
Alors, on peut évoquer finalement sur ces 88, ces 4 fois 22 blocs de texte. Moi, j'ai pensé aussi à ce qu'on fait, à ce que faisait César, c'est-à-dire des compressions. Il prenait une voiture et on la mettait dans une sorte de compresseur et il sortait un cube de métal dans lequel il y avait de broyer, d'assembler, comme ça, toute l'histoire de la voiture. Là, on a par moment l'impression que ce sont des compressions littéraires, des compressions textuelles et qu'il y a non seulement ce que vous écrivez, avec des fois des phrases d'un mot, mais qu'en même temps, on pourrait le déployer d'une certaine façon, le déplier, l'expliciter. Que tous ces blocs de texte sont vraiment la forme contractée pour la rendre plus violente, plus colorée, plus intense, d'une sorte de grand discours qui serait plus vaste.
Oui, c'est un ami m'a dit que je devais l'écrire en 800 pages. Voilà. Mais je suis pas sûre que l'exercice me convienne.
Alors comment vous travaillez ce type de texte? Parce que effectivement, il y a une syntaxe qui est la vôtre, qui est une syntaxe giclée, pulsée, une syntaxe ensauvagée, on peut le dire, une double langue qui apparaît, des personnages, comme l'a dit Christophe, qui grommellent en permanence et qui sont toujours dans une sorte de monologue intérieur un peu orageux. Comment vous travaillez ce type d'écriture? Est-ce qu'il y a un gueuloir chez vous? Est-ce que vous la gueulez, votre littérature, ou est-ce que vous la laissez au contraire enfouie, entassée à l'intérieur, et vous, allez, vous marmonnez. Vous hurlez ou vous marmonnez, Caroline de Mulder?
Quelque chose entre les deux. J'essaye les deux manières. Je murmure, puis je gueule, et puis je vois ce qui est le mieux. En réalité, l'écriture est une alternance pour moi, de moments de lâcher prise où je laisse la prose venir et de moments où effectivement il faut réordonner, réorganiser. Dans ce cas, les quatre parties sont principalement consacrées chacune à un des éléments. Donc il y a le minéral, l'animal, l'eau, le déluge et le toxique, ordure. Et effectivement, mais bon, il y a des ponts et des ponts très importants entre ces différents éléments, entre ces différentes parties.
C'est vrai qu'on a parlé, on a parlé de l'alcool, on a parlé de la drogue, on a parlé de la cigarette, mais il y a aussi donc les produits chimiques qui sont utilisés par les cyberferrieurs. Il y a des émanations en tout genre dans ce roman, et ça a quelque chose d'incroyablement étouffant, asphyxiant pour le lecteur. Et c'est ce que vous avez, je pense, essayé de travailler aussi, non ?
Non, j'ai pas essayé d'asphyxier le lecteur. Mais effectivement, on revient à la matérialité. La matérialité à la fois du texte et dans le texte est très importante pour moi.
Je crois qu'une seule fois dans le livre, on a évoqué la sensation de faim qui tiraille le lieutenant. Sinon, c'est jamais, disons, ces affects de la bonhomie, de la bonne chair.
Ça passe. C'est plutôt cheap. Lui, il n'oublie pas de se sustenter, enfin, surtout
de boire,
effectivement.
Mais ce qui est quand même au cœur du roman, c'est cette figure de Frank Dornon qui est véritablement un plomb comme on en utilise pour sonder. Vous savez, on jette dans les abîmes sous-marins des plombs pour voir un petit peu quelle est la profondeur. Et là, vous avez trouvé un plomb de bonne taille qui vous permet de sonder à la fois les abîmes psychologiques, les abîmes sociaux, les abîmes géologiques, puisque lui-même tombe dans le noir assez souvent. Donc là, vous avez quand même conçu un personnage qui est une formidable, une sorte de tête chercheuse, comme ça, de sondeur extraordinaire.
Oui, c'est un plomb et c'est aussi une flèche un peu cassée, un peu brisée, mais qui est évidemment portée par son sentiment pour cette femme qu'il veut absolument retrouver. Et la question est de savoir si elle est morte ou pas, et si elle est vraiment au fond des carrières de calcaire ou non.
Quelle a été la réception en Belgique de votre roman, Caroline de Mulder? Est-ce que justement, d'abord le fait qu'il y ait les deux langues, le fait que vous mettiez en scène quand même des personnages que l'on peut reconnaître, que des problèmes d'aujourd'hui, les déchets toxiques, l'extrémisme politique, la violence sociale, comment on a reçu ça en Belgique?
Alors la réception a été très bonne du côté francophone. Je pense que la très grande majorité des Flamands ne l'ont pas lu, donc je n'ai pas eu de réaction autre que celle de ma mère sur ce roman du côté flamand. Mais effectivement, je ne sais pas comment il serait reçu s'il était traduit.
Et pourquoi l'avoir appelé tout simplement calcaire ?
Parce que je trouve le mot très beau, la matière très belle. Et que quelque part, ça résume assez bien le livre en un seul mot.
Oui, on peut faire à la fois des craies pour écrire au tableau noir et des souterrains. Donc c'est tout à fait, c'est la matière
qu'il
faut
aux écrivains. Oui, mais la calcaire, le calcaire et certainement les carrières de calcaire sont en fait un immense cimetière préhistorique enfoui, puisque le calcaire se compose de morceaux d'eau, de débris, de cartilages, de coquillages, de restes animaux et humains. Et c'est en quelque sorte un personnage à part entière. C'est un cimetière qui appelle d'une certaine manière d'autres cadavres.
Lui aussi, c'est une compression et qui raconte toute l'histoire du monde, alors.
Un peu.
Voilà. Calcaire de Caroline de Mulder, donc roman qu'on vous recommande très chaudement, donc paru chez Actes Sud dans la collection Actes Noir.
It was on a bench in the park last night that you stole a kiss in the pale moonlight. Now you think it's right to return to the scene of the crime. Though you killed my sleep, keeping me out late, and you're
fatal chime really sealed my fate. You can hardly wait to return to the scene of the crime. With the aid of your accomplice, the man in the moon above, you made my arms, my lips, my heart your prisoner of love. You ignited me to a fever pitch, and you took my heart, the result of which is you simply itch to return to the scene of the crime.
Alors, comme d'habitude, et comme toujours, comme veut la tradition, je termine l'émission en disant « Et maintenant, nous terminons bien évidemment avec Christophe Beer ». Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque Christophe Beer est devant moi, comme parfois, mais il est là comme invité pour nous parler donc d'Obsession au pluriel qui paraît aux éditions Le Dilettante et qui est la quintessence, l'élixir 132 parmi toutes les chroniques, Christophe, que vous avez dit après les avoir minutieusement écrites à Mauvais Genre. Alors ça, c'est une histoire assez étonnante qu'il faut conter à nos auditeurs, parce que au départ, c'est une proposition que je vous ai faite, que vous avez acceptée, qu'on a débattue. Il fallait trouver une forme à Christophe Beer. Il fallait trouver une forme qui vous permette d'être au mieux, je dirais, de ce que vous êtes, c'est-à-dire de mieux vous exprimer sur ces sujets que vous choisissez. Et là, on a quelque chose qui est entre, je dirais, l'espèce de montée en chair comme un prédicateur, et puis en même temps quelque chose qui est extrêmement théâtral, très écrit. Est-ce que vous vous doutiez que c'était la forme qu'il fallait utiliser comme...
Elle s'est imposée. Si vous vous souvenez, François, vous m'aviez invité donc en 2001 pour la sortie d'un livre. Comme vous le faites, je ne suis pas le premier ni le dernier, beaucoup d'invités deviennent ensuite des chroniqueurs.
Caroline Mulder, faites attention.
Et donc, j'avais fait quelques directs comme ça, et un jour, Pierral, que nous aimions tant, est mort, c'était en 2003, j'ai eu cette envie d'écrire un hommage. Je ne voyais pas d'autre façon de bien le faire que de l'écrire minutieusement. Et on l'a lu, elle a été lue à l'antenne en direct. Et tout d'un coup, ça nous a semblé être la formule idéale. En tout cas, celle qui me convenait le mieux, effectivement.
Parce que c'est une formule qui arrive à conjoindre bien les dimensions de votre personnalité, à la fois l'objet de vos choix, alors là, on va voir lesquels, la dimension théâtrale, puisque vous êtes acteur, acteur de théâtre, donc il y a une théâtralité.
J'ai beaucoup lu avant voilà. Les chroniques, je faisais souvent des lectures d'extraits de romans et ça me plaisait beaucoup.
Et par ailleurs, vous êtes ce qu'on appelle un érudit, un encyclopédiste, en témoigne votre encyclopédie Le Beer, l'encyclopédie des films érotiques et pornographiques en 16 et 35 mm, où rien ne vous a échappé jusqu'au petit nom du moindre technicien jusqu'à celui de la sexistar la plus renommée. Donc il y a à la fois l'érudit, le comédien de théâtre et l'amateur de genre.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y en a 260 ou 280 maintenant. Je les numérote. Elles sont numérotées, les chroniques. C'est mon côté obsessionnel, voilà. Donc. Mais, effectivement, chaque semaine se pose la question de... Qu'est-ce que nous allons raconter à l'antenne? Quel livre nous allons mettre en valeur? Quel spectacle, voilà, avec toujours des regrets. Par exemple, je n'ai encore jamais réussi à parler d'un restaurant ou d'un vin, parce que je n'ai absolument pas la connaissance pour ça, mais je suis persuadé qu'on peut faire une chronique Mauvais Genre sur un cépage. Mais là, je n'ai pas assez de connaissances pour le faire. Alors je me rabats sur mes marottes, qui sont l'érotisme, la pornographie, le roman noir, le cinéma... qu'on appelle communément bis, le cinéma de genre, et en fait tout ce qui pour moi est gratte, je ne m'intéresse qu'aux aspérités. Voilà, c'est pour ça que calcaire, j'en aurais fait une chronique très volontiers, parce que là, il y a tout ce que j'aime dans ce livre, le personnage de Franck Dournen notamment, puisque j'ai commencé avec Pierral, le nain Pierral, et j'aime tout ce qui est cabossé. Voilà, c'est peut-être que c'est ça ma définition du mauvais genre. Des aspérités, des choses un peu cabossées, des choses en marge. Voilà, donc j'essaye de toujours chercher dans ces zones secrètes.
Alors, ces 132 chroniques, on va tenter de les cataloguer un peu, de voir un peu ce qu'elles recèlent. Le premier, c'est « Cacher ce nain », c'est Pierral, donc Pierral, vous avez écrit au moment de sa mort, une nécrologie. Dernier, « Marie-Laure Pirate », c'est l'éditrice
Marie-Laure
Dagois. Et est-ce qu'on peut essayer de créer une typologie des chroniques ? Il y a les nécrologies, il y a à la fois l'aspect encyclopédique, puisque vous avez des travaux d'érudits, il y a les fanzines.
Malheureusement, il y a beaucoup de morts, oui, il y a beaucoup de nécrologies, mais...
Alors, par exemple, quelle nécrologie qui avez-vous retenu parmi vos grands morts?
J'ai retenu Rita Renoir, la reine du striptease, la tragédienne du striptease, qui ensuite a fondé toute sa carrière sur la libération du corps, des pulsions sauvages, qui a fait des happenings et qui a fini sa carrière en 1974 avec un spectacle hallucinant, seul sur scène, pas un mot, juste son corps et des cris. Donc là, c'était vraiment une personnalité prodigieusement mauvais genre. D'ailleurs, la grande question qui court dans le livre, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que ce mauvais genre dont on parle depuis maintenant donc 20 ans, vous François, depuis 20 ans. C'est une étiquette, disons, qui est peut-être un peu commode et qui nous permet
de tout mettre.
Oui, je pense que chacun a son... Vous demandez à Philippe Rouillet sa définition du mauvais genre, elle n'est pas du tout la même que la mienne. Je pense que ce qui m'intéresse surtout, ça n'est pas tellement mon regard plutôt que la chose regardée. C'est peut-être par exemple ce qui me distingue d'un chroniqueur comme Philippe. Je pense que, d'ailleurs, en travaillant sur les textes, je me suis rendu compte qu'il y avait des termes qui revenaient beaucoup. Donc au départ, on est un peu chiffonné par des répétitions et finalement, elles sont parlantes. Il y a le terme de fascination, de plonger son regard Voilà, je suis simplement un chroniqueur fasciné par l'objet dont il parle. Mon regard disparaît devant l'objet. Donc je pense qu'il y a effectivement des personnalités, des films, des objets, des livres qui sont ontologiquement mauvais genre. Ce n'est pas mon regard qui va colorer l'objet ou la personnalité. Donc je suis en fait un admirateur transi des personnes dont je parle.
Donc vous mettez en œuvre dans ces 132 chroniques, Christophe Beer, et dans cette émission depuis toutes ces années, véritablement une sorte de dilution. Vous sombrez comme ça, vous vous évanouissez d'amour dans les objets de votre propos, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on appelle une espèce d'esprit impérial, analytique, un esprit qui t'entraîne à une sorte de dissection. Au contraire, vous, c'est l'étreinte. Vous n'êtes pas un vivisecteur, vous êtes quelqu'un qui étreignait l'objet.
Voilà, c'est parfaitement dit. Je ne peux pas faire d'analyse. Je suis à chaque fois. Je veux être séduit, emporté, et après essayer de partager cette émotion que j'ai. Voilà, c'est une question d'émotion, tout simplement. Il n'y a pas de mauvais genre sans émotion. Une émotion qui peut être dans les plus bas tréfonds, la vulgarité par exemple, ou alors je me souviens d'avoir fait une chronique sur l'art de l'insulte. Aujourd'hui, l'insulte est oubliée. Donc je pense qu'il faut militer pour le retour à l'insulte. Il faut que les gens recommencent à s'invectiver et à s'insulter. Voilà, je suis pour ce genre de choses, des choses pulsionnelles, charnelles. J'aime le cinéma bis par tout ce qu'il charrie de pulsionnel. Et donc, je veux être enseveli par tout ça.
Alors voilà qui vous met en phase avec notre invitée Caroline de Mulder. Merci d'avoir été avec nous à Mauvais Genre ce soir. Je rappelle et conseille évidemment chaudement, je le répète, Calcaire qui paraît aux éditions Actes Sud. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pascal Bernard, Claire Martin-Dugard, Chloé Leblond, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Christophe Bire et François Angelier. Vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Claro pour son roman Hors du charnier natal aux éditions Inculte. Et on ne quitte pas France Culture où l'on retrouve Amaury Chardot pour Métronomique.